Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Kama, page 94, Daf Tzadik Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Mais à ce pourrait que Shamaï Osrim, Shamaï qui interdisent, ou Bet Hillel Matirim qui autorise, ou Maï Tamé des Bet Shamaï, quelle est la raison que Bet Shamaï interdisent? Parce qu'à Marka, Gam Shnehem, juste après que la Torah ait dit n'apportez pas le salaire de la débauche ou Bet Amigdash, de même, n'apportez pas l'animal qui a été échangé contre un chien ou Bet Amigdash. La Torah ajoute Gam Shnehem, les deux, il ne faut pas les apporter. Ce qui est bien sûr superflu de dire, puisque on a déjà dit que l'Etnan Dona, le Mechir Kelev, il ne faut pas les apporter au Bet Hamidash. Alors pourquoi la Torah ajoute Gam Shnehem? Réponse, le Rabot Shinuyehem. Ça vient inclure le salaire de la Dona, même s'il a été transformé, ainsi que le produit qui a été échangé contre un chien, même s'il a été transformé. Ou est-il elle? Pourquoi est-ce que eux, ils pensent que le produit transformé, il est autorisé au Bet Hamidash? Parce que si la Torah, vraiment, elle avait voulu qu'on interprète comme Bet Shammai, elle aurait dit Gam Shnaim. Pourquoi Shnehem? Shnehem, ça veut dire Shnaim, eux, et Hem, et seulement eux, et pas leur produit transformé. Alors, dans les mots, ou est-il elle, Amar, craint, parce qu'il dit Hem, velo shinuye Hem. Ou Bet Shammai, la Gemara se tourne maintenant avec Bet Shammai, elle dit active Hem, voilà ce décrit Shnaï Hem. Qu'est-ce que tu fais de la remarque de Bet Hillel? La Gemara répond Haou, ce Hem là, Mibaele, on en a besoin pour dire Hem, il n'y a que les produits que la Zona a reçu et celui, le produit qu'on a reçu en échange du chien qui sont interdits, velo vlado te Hem, et pas les produits qui sont nés de ces choses. C'est-à-dire que si la Zona elle a reçu une brebis comme salaire et que la brebis elle a mis au monde un agneau, l'agneau il autorise au Bet Hamidash. De même pour une brebis qui aurait été échangée contre un chien, si cette brebis elle a mis au monde un agneau, l'agneau il est autorisé au Bet Hamidash. Alors maintenant avec Maston de Bet Hillel, elle lui dit elle, alors toi d'où tu apprends ce dernier enseignement que Ben Shammai vient de mentionner? Elle me répond tardez, Shmat Mina. Les deux enseignements, on peut les apprendre du même pasouk, parce que on va dire Hem velo shinuye Hem, Hem velo vladote Hem. Parce que, bien que normalement, d'un seul pasouk qui est en trop, on apprend un seul enseignement, mais lorsque les deux enseignements qu'on se propose d'apprendre un pasouk qui sont d'intérêt égal, il n'y a pas un qui a plus grand prix que d'autres, alors on a le droit d'apprendre les deux, on peut apprendre les deux du même pasouk. Maintenant, la Gemara se tourne vers Bet Hillel, elle dit ou Bet Hillel, d'après Bet Hillel, Nami, également, active Gam, c'est bien écrit Gam, ce qui semble vouloir dire aussi, c'est-à-dire c'était une inclusion, c'est bien inclure quelque chose de plus, comme l'a fait Bet Shammai, et pas exclure, comme l'a fait Bet Hillel. Alors la Gemara, elle admet que le Gam, le Bet Hillel, Kasha, c'est vrai qu'il est plus difficile à intégrer dans le pasouk, d'après les interprétations que Bet Hillel en ont fait, mais ça ne constitue pas quand même une objection majeure qui ferait renoncer Bet Hillel à son interprétation. Pardon. Maintenant passons à Rabbi Elazar ben Yaakov, Maïhi, quel est le texte d'où il ressort que une transformation ne change pas le statut de l'objet transformé, les Tania. Comme on voit dans le Maratha, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Aré chez Gadal, imaginons que quelqu'un il ait volé une mesure chez l'haïtim de blé, de Hana, il l'a moulu, donc il l'a transformé, ou bien l'achat, à plus forte raison, s'il a pétri, a fait un, il a fait cuire au four, et donc elle est bien transformée. Et Frishimina Hala, il se propose maintenant de prélever la Hala, qu'est-ce que ça me va rire? Est-ce qu'il peut faire la bracha? Alors Rabbi Elazar ben Yaakov dit, Enze me va rire, ça s'appelle pas une bracha. Et là, Menaet, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de répréhensible. C'est sur ça que David Amelech dit Botea Berer, celui qui vole et qui voudrait faire une bracha sur ce qu'il a volé, ni et Hachem, Hachem il le réprouve. On voit donc d'après Rabbi et Eliezer ben Yaakov, un objet volé même transformé, il ne change pas de statut d'objet volé, et bien sûr Hachem ne veut pas entendre parler de bracha sur une telle chose. Rabbi Shimon ben Elazar, Mahi, quel est le texte où on voit qu'il pense qu'une transformation de l'objet ne change pas son statut? Détania, comme on voit dans une braïta. Klalze, Amar, Rabbi Shimon ben Elazar, voici la règle que Rabbi Shimon ben Elazar a énoncée. Kosheva, chez Shbir Gazlan, toute plus-value, toute bonification que le Gazlan il a apporté à l'objet qu'il a volé. Yado à la Eliona, littéralement il a la main au-dessus, c'est-à-dire il choisit ce qu'il avantage. Ratin, s'il veut, notel Shevaho, il prendra ce qu'il a bonifié, ce qu'il a amélioré, et il indemnisera le volé. Ratsa, s'il veut, Omerlo, il peut dire au volé, Arishel Echal Fanecha, voici l'objet volé dans l'état. Alors, Agmar demande Maïka Amar, qu'est-ce que ça veut dire cette dernière phrase? Voici l'objet dans l'état. Ça veut dire que l'objet, il est moins bien qu'avant. Ça, on dit pas voici l'objet dans l'état. Amar Avshechet. Alors, Avshechet, il dit effectivement, Rika Amar, que la Breita, elle a deux volets. Le premier, c'est Ishbicha. Si l'objet a été bonifié, Notel Shvaro, alors effectivement, le voleur peut se réserver l'objet améliorer et indemniser le volet. Maintenant, deuxième volet, Kahash. Si ses efforts pour améliorer l'objet ils ont été infructueux, Kahash, que l'objet il a diminué de valeur, Omerlo il dit au volet, Arechelecha, le Fanecha, prends-le dans l'état. Et comment c'est possible qu'il puisse dire au volet, prends-le dans l'état, il a été modifié, et ça fait rien, reprends-le dans l'état. Pourquoi? Parce que chez nous, Ibim Komoben, que la transformation, elle laisse l'objet dans le même statut. Comme il était avant au volé, il appartient encore au volé malgré la transformation. C'est pourquoi il peut le lui remettre dans l'état. Alors la Gemara s'exclame, alors si Yahri, si c'est comme ça, alors Afilou Ishbiar, même si l'objet il a été amélioré, puisque ça ne change pas son statut, alors l'ami, là aussi, il aurait dû le restituer tout amélioré qu'il est. Alors pourquoi la Braïta, dans Rabbi Shimon ben Elazar, a dit que quand c'est amélioré, il peut le garder pour lui? La Gemara répond, on répond que Mipene Takadat Hashavim. Effectivement, ce n'est pas le droit pur que de garder l'objet lorsqu'il est transformé à l'avantage du voleur, mais c'est une faveur qu'on lui fait pour l'encourager à faire tshuva, puisqu'il s'est investi et qu'il a peut-être des regrets malgré ses aspirations à faire tshuva. Et il a des regrets pour tout ce qu'il a investi, alors on peut lui dire, bon ben, garde l'objet que tu as amélioré et restitue, indemnise le volé à la concurrence de ce que tu as volé. Maintenant, Rabbi Ishmael, Maïhi, quel est le texte dont on voit qu'il est aussi partisan de ce qu'une transformation ne change pas le statut de l'objet? Détania, comme on voit dans une Meraïta, Mitzvah P.A., la friche Minakama, la mitzvah de laisser le coin du champ à l'intention des pauvres. Minakama, c'est sur la récolte, sur pied qu'il faut faire la mitzvah. L'eau y friche Minakama, s'il n'a pas laissé une partie de la récolte sur pied. Ma friche Minakama, il pourra laisser aux pauvres le coin du champ, même si c'est déjà en gerbe. L'eau y friche mina omarim, s'il n'a pas laissé au stade des gerbes, ma friche mina kiri. Il peut encore laisser la partie du pauvre lorsque on se trouve sur le tas du blé battu. Atzilo miracho, tout le temps où il n'a pas encore fait le vannage, il n'a pas encore vanné. Miracho, s'il a vanné, il ne peut plus lui remettre dans l'état parce que maintenant, une fois que le produit est fini, le blé est prêt, on est obligé de prélever le maaser. Alors, il met un maaser, il prélèvera d'abord le maaser, ensuite notenlo, il laissera la part du pauvre. Ça veut dire qu'après ce stade-là, si on passe au stade suivant, c'est fini. Il n'y a plus de mitzvah de PA, parce que après ça, on commence la transformation, puisque le stade suivant, c'est moudre le blé, c'est sûr que c'est une transformation qui dispense après le propriétaire de donner la PA au pauvre. Mais Mishum Rabbi Ishmael, non, Rabbi Ishmael, on dit que Amrou, Abba Frishmina Issa, même s'il arrive au stade d'une pâte, c'est-à-dire que c'est vraiment une transformation complète, quand même, il laissera la part du pauvre. Notel-no, et il lui donne. On voit donc que malgré la transformation complète de la récolte, quand même, la récolte n'a pas changé de statut et on reste avec les mêmes obligations, d'après Rabbi Ishmael. On a donc fini d'exposer les cinq Tanaïm qui pensent tous qu'une transformation d'un produit ne change pas son statut. Alors Amarle Rav Papa, il a interpellé Abaye, il dit quoi ? Ikfal Kolani Tanaï, tous ces Tanaïm-là, ils se sont évertués, fatigués, à exposer la Shmoinan, pour faire entendre des points de vue que Beit Shammai, qui vont dans le sens de Beit Shammai, qui n'est pas la halakha, puisque c'était bien Beit Shammai qui avait dit que le présent offert à la prostituée, même s'il était modifié, il reste assourd au Beit Hamikdash, donc une transformation ne change pas le statut d'objet. Alors, c'est pas possible d'imaginer que tout cet anaïm expose, exprime la vie de Beit Shammai, qui n'est pas la halakha. Amarle, Abaye lui a répondu, Achi Kamre, et voilà ce qu'ils veulent dire cet anaïm, justement. Lo nechlaku Beit Shammai ou Beit Hillel badavarze. Justement, ils veulent dire, en exposant le point de vue qu'une transformation ne change pas statut d'un objet, ils veulent justement dire qu'il n'y a pas discussion sur ce sujet, et Beit Shammai et Beit Hillel pensent la même chose, que la transformation ne change pas de statut des objets. Amar Rava. Rava dit, il s'adresse à Abaye, il lui dit, mais d'où est-ce que tu as pu établir comme une règle que tous ces Tanaïm-là, ils pensent la même chose, et qu'ils admettent unanimement que la transformation d'un objet ne change pas son statut? Dis-moi peut-être que c'est juste des cas particuliers, qu'en général ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais ils se sont exprimés dans des cas qui sont particuliers, comme on va l'expliquer maintenant. Peut-être Adkan, Lo, Kamar, Rabbi Shimon, Ben Yehuda, Hatam. Peut-être que Rabbi Shimon Ben Yehuda avait dit que la teinture, ça ne changeait pas le statut de l'objet. Pourquoi ? Et la Betseva, ça parlait d'une teinture où il veut Yachola, Viron avait dit que ça parlait d'une teinture qui peut partir, tailler le savon avec un détergent. Et c'est peut-être pour ça que cette transformation, elle n'est pas considérée comme suffisante pour changer le statut de l'objet. Donc on restera Chayav Drishitagez. Mais lorsque la transformation est le plus définitive et le plus fondamentale, dans ce cas-là, il peut être d'accord que ça change le statut de l'objet. Vatkan, de même. Peut-être que Beit Shammai, quand ils ont dit à Tam que la transformation du présent à la prostituée reste interdit au Beit Hamikdash. Pourquoi ? À la Gavoua, parce que il s'agit d'offrir un présent au Beit Hamikdash. Là, on comprend bien que Mishum des Imis, c'est forcément repoussant. N'importe quel souvenir de l'Avera, quand il s'agit d'offrir un Beit au Beit Hamikdash, un Korban, c'est sûr qu'on ne peut pas être autre chose qu'exigeant. Mais pour tout ce qui est profane, peut-être qu'un changement, une modification, ça change le statut d'objet. Le Hatkan. Et jusqu'à l'Okama Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov à Tam, là-bas, concernant la farine dont on a fait un pain, duquel on a prélevé la challah. Quand il s'agit de faire une bracha, aussi, c'est quelque chose de particulièrement spirituel. Et Mishum Devalé, Mitzvah Avera, et on avait dit, il n'est pas question d'accepter qu'on puisse faire une mitzvah en se servant, en utilisant une avera. C'était pour ça que la transformation, là-bas, elle n'est pas suffisante pour permettre de faire la bracha. Mais dans un autre domaine, peut-être que ça sera suffisant. Vadkan le Kamar Rabbi Shimon ben Elazar. Et Rabbi Shimon ben Elazar lui aussi, Atam, concernant l'objet volé, qui avait été modifié en mal par le voleur, et il avait dit qu'il peut le restituer dans l'état. Pourquoi ? Parce que peut-être il parlait d'une détérioration réversible, Bakrasha de Hadar. Par exemple, il avait peut-être pas bien nourri l'animal qu'il avait volé, alors l'animal il avait perdu du poids, mais ça, du moment que c'est réversible, on peut de nouveau s'occuper correctement de l'animal et qui va reprendre son poids et sa santé d'origine. C'est pour ça que cette modification n'est pas suffisante pour provoquer un changement de propriété. Vatkan Lokama Rabbi Ishmael, et concernant Rabbi Ishmael là-bas, et la Lignan PA, concernant la mitzvah de Péa, Mishum dirtiv tazov yetira. Parce que c'est écrit à plusieurs reprises, abandonne, laisse le coin du champ aux pauvres. Et comme la Torah, elle le répète plusieurs fois, elle veut nous dire par là qu'il faut le laisser, l'abandonner aux pauvres, même s'il a subi une transformation. C'est donc un din, une loi spécifique à la mitzvah de Péa, mais dans les autres domaines, toute transformation, ça changera le statut. Ah, maintenant, Ritema se dire, mais Ligmar Minek, pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas justement de la mitzvah de Péa? Puisque on a le droit, on trouve dans la Torah un concept qui est exposé, on a le droit de l'utiliser, de l'enseigner, de l'apprendre pour tous les autres domaines de la Torah. Donc, disons que de même que pour la Péa, la transformation, elle ne change pas son statut. Dans tous les domaines de la Torah, une transformation ne changera pas le statut de l'objet transformé. Alors, Agmara refute cette proposition. Pourquoi? Parce que matanot anim shane. Toutes les matanot anim, tous les dons que la Torah a demandé de remettre aux pauvres, pour tous ces dons, c'est mentionné plusieurs fois ta'azov, ta'azov. C'est-à-dire que la Torah, elle insiste pour que, malgré les transformations, il ne faille pas considérer que l'objet, il a changé de statut. Et si la Torah l'a répété dans tous les dons qu'on doit faire aux pauvres, ça veut dire que c'est tous ces dons-là qui suivent une règle particulière. Parce que si c'est une règle générale pour toute la Torah, que la Torah le dise uniquement pour l'un de ces dons, et on va extrapoler avec la règle du Mamatinou, puisque c'est une des 13 règles d'interprétation de la Torah, que chaque fois qu'un concept est dénoncé quelque part, on peut l'extrapoler pour peu qu'on ne voit pas d'objection majeure à cela. Donc la Torah aurait dû l'enseigner uniquement pour une des matanot anim. Et si la Torah le répète pour toutes les matanot anim, ça veut dire que ce n'est pas une règle dans toute la Torah, mais c'est une règle qui n'accourt que pour les matanot anim. D'ailleurs, Rava n'est pas le seul à s'interroger sur la position de Rabbi Ishmael, qui est Baï Rabbi Yonatan, comme on va le voir dans les propos de Rabbi Yonatan, que lui aussi, il envisage que Rabbi Ishmael pense que, en général, la transformation peut servir de changement de statut, de propriété, et ici, pour les matanot anim, c'est une exception. Les Baï Rabbi Yonatan, parce qu'on voit justement Rabbi Yonatan qui se demande, Maïtamad Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael concernant la Péa, que malgré la transformation en farine et en pain, on reste obligé de le donner aux pauvres? Est-ce que Mishum de Kassavar Shinu Yenokone, est-ce que ça reflète son opinion dans toute la Torah? Une transformation ne change pas de statut ou de propriété. Odilma, ou peut-être que non. Alma, dans toute la Torah, Kassavar Shinu Yenokone, pense que une transformation, ça permet un changement de propriété, de statut. Et pour la Péa, c'est spécial, Mishum Yirtiv Tazov, etc. On voit donc que Rabbi Yonatan, il envisage que Rabbi Ishmael pense dans toute la Torah que Shinui connaît, et que pour la Péa, c'est une exception, parce que c'est écrit Tazov, etc. La Gemara vient de terminer la démonstration de Rava, mais elle a encore un point à éclaircir. Elle dit, Imtin Selomar, dans l'hypothèse que Tahamad Rabbi Ishmael, que la raison de Rabbi Ishmael, c'est que dans toute la Torah, il pense Mishum Kassavar Shinui Yenokone, qu'une transformation, ça ne permet pas de changement de statut de propriété, si c'est une règle dans toute la Torah. Alors, Tazov Yetera, les Tazov qui est écrit en plus au sujet de la PA, les Katavar Hamana Kachem, il a écrit la Mali. Pourquoi? Quelle utilité? Puisque c'est une règle général que n'importe quel changement, transformation, ça ne change pas son statut, donc on sera toujours chayav de PA. Pourquoi donc c'est écrit Tazov? De plus, tout, et les Rabbanan, de toute façon pour les Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael d'office, qu'eux ils disent qu'une transformation, ça crée un nouveau statut, et le blé transformé en farine, il n'est plus chayav de PA, alors le Tazov, qui est écrit en plus pour la mitzvah de PA, quel usage a-t-il? Tazov yetera de kadavar hamana la mali. Alors il m'a répondu, on a besoin de ce tazov pour l'enseignement suivant, qui est lire des Tanya, comme on voit dans l'Umraïta, Amafkir, Karmo, Vishkim. Celui qui a proclamé qu'il abandonne sa vigne,
le soir. Et tout le matin, ishkim la boker ou batzro et il a vendangé.
Hayat beferet ou bevalolot, il reste redevable de toutes les matnas d'anim, c'est-à-dire pour un vignoble beferet qui correspond à la shirha pour les céréales, c'est-à-dire les grappes qu'il aurait oubliées, ou bevalolot, ça correspond à PA pour les céréales, c'est les petits grappillons qui n'ont pas une grande valeur marchande et que la Torah nous a demandé d'abandonner aux pauvres. Boshikha ou PA. Là pour un champ de céréales également, le propriétaire qui a abandonné la veille son champ, la récolte de son champ, et que le lendemain il en a repris possession, il sera quand même Khayav, le Shikha, c'est-à-dire s'il a essayé des gerbes, il a oublié des gerbes en arrière, il ne pourra pas retourner les chercher, le PA, et l'extrémité de sa récolte sur pied, il doit l'abandonner aux pauvres, malgré que cette récolte elle est passée par un stade de Hefker. Donc la question elle est, pourquoi, qu'est-ce qu'il a ce Hefker de particulier pour qu'il reste passible de toutes les matnotes de l'anime? Et l'explication est que ici c'est un Hefker de mauvaise qualité parce qu'il n'a pas abouti entre les mains d'une tierce personne. C'est-à-dire un vrai Hefker, c'est ce que le propriétaire abandonne et que quelqu'un d'autre vient s'en approprier. Mais là, le propriétaire, il a fait don, il a abandonné sa récolte la veille, et le lendemain matin, très tôt, il a repris possession de ce qu'il avait abandonné. Donc c'est un FKR qui n'est passé dans les mains de personne, qui est retourné directement dans les mains du propriétaire, et ça, normalement, pour les autres domaines de la Torah, de la Halakha, c'est quand même un FKR valable. Mais ici, puisque la Torah l'a dit, qu'il faut abandonner aux pauvres, elle insiste pour qu'on abandonne aux pauvres, donc on le fera même dans ce cas de Hefker, qui est un mauvais cas de Hefker, il faudra considérer qu'on a encore l'obligation de donner les matanot aux pauvres. Donc au terme de cette sugya, on a vu comment Rava il a refuté la thèse d'Abaye concernant ces cinq Tanaïm, et il a dit que, en définitive, on ne peut pas affirmer avec certitude que ces Tanaïm pensent que Shinouï et nos connaît, parce que tous les cas dont ils ont parlé, ça peut être un cas particulier pour chacun, et dans les autres domaines de la Torah, peut-être qu'ils pensent que Shinouï connaît. On passe maintenant à un autre sujet. Amar Yuda Amar Shmuel. Rabbi Yuda a dit en Shmuel, Alakha que Rabbi Shimon ben Azar. On se rappelle qu'il avait dit plus haut que le voleur qui a détérioré l'objet du vol, il peut quand même le remettre dans l'état où volé, malgré la transformation. Parce que dans ce cas-là, Rabbi Shimon ben Azar, il pense que la transformation ne crée pas un changement de statut de propriété, et donc le voleur, s'il veut, il peut le restituer dans l'état au volé. Alors la Gemara s'exclame, on dit quoi ? Miamar Shmuelachi ? C'est possible que Shmuel il ait dit une chose comme ça, que la Lacha c'est comme Rabbi Shimon ben Azar. Amar Shmuel, il a dit par ailleurs, En Shamin lo laganav velo lagazlan. Que ce soit pour un voleur qui a volé en cachette, le ganav ou gazlan, celui qui a volé au vu aussi de tout le monde comme le gazlan. En Shamin, on ne va pas évaluer les débris, le reste de l'objet volé, et le remettre au volé, et demander au voleur uniquement de donner la différence. Mais au contraire, le voleur gardera l'objet transformé ou détérioré, et il remboursera intégralement au volé la valeur de l'objet qu'il a pris. Et là, il n'y a que pour les dommages qu'on pratique de la sorte, c'est-à-dire on regarde les débris d'objets abîmés que la victime va prendre à son compte et l'endommageur, il ne fera que compléter la différence qu'il y a entre l'objet abîmé et l'objet d'origine. Il en ressort bien que, d'après Shmuel, une transformation correspond à l'acquisition d'objets pour le voleur, puisque le voleur il doit rembourser, indemniser totalement le volé. Alors la Gemara poursuit, elle dit Mishlama, ça va bien encore d'après Rava. Que Rava il avait expliqué précédemment qui a Amar Bishman el Hazar, que Rabbi Shimon el Hazar qui disait que l'objet transformé par le voleur quand il a été détérioré, il peut le restituer parce que ça parlait d'une akrasha d'Hazar, ça parlait d'une détérioration réversible, et c'est pour ça que il n'y a pas acquisition. Donc l'okasha, c'est pas difficile. Qui a marre l'alakha, Rabbi Shimon ben Elazar? Quand on a. Shmuel, il a dit que l'alakha, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et chez nous, il est comme Obed. C'est-à-dire que la transformation n'a pas changé l'objet de propriété. Bimko Mohamed. Ça, c'est pas Kracha, Dadar, c'est pour une détérioration réversible. Et qui gamma Shmuel? Attends, mais quand Shmuel il a dit que En Shamin, qu'on ne n'évalue pas l'objet transformé, détérioré par le voleur, mais il doit le rembourser intégralement. Donc En Shamino Laganav Lagazlan, et la Inzakim. Seulement pour les dommages, on fait cette évaluation. C'est pas Kracha de Hadar, ça parle d'une détérioration qui est irréversible. C'est pour ça que c'est une transformation qui crée un changement de propriété. Et c'est pour ça que le voleur, il devra indemniser totalement le volé. Et là, l'Abayé, mais on se rappelle que d'après Abayé, des Hamar, il avait expliqué plus haut, qui Kamar Rabbi Shimon ben Elazar, Kracha de Hadar, il avait dit que Rabbi Shimon ben Elazar, c'est un partisan de ce que la transformation ne crée pas de changement de propriété, et dans tous les cas, même si c'est une transformation irréversible, comment est-ce qu'on va résoudre cette contradiction de Shmuel à Shmuel? Alors il me répond, Abaye Matniari. Abaye, il va présenter les paroles de Rav Yehuda non Shmuel comme suit. Ou alakha que Rabbi Shimon ben Elazar. On dit, on a rapporté que l'alakha, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est ça ce que Shmuel il aurait dit.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Ou alakha que Rabbi Shimon ben Elazar. On dit, on a rapporté que l'alakha, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est ça ce que Shmuel il aurait dit. Mais venez, le suralé, Shmuel lui-même, il ne pense pas que l'alakha c'est comme ça. Parce qu'au contraire, il pense qu'une transformation, elle crée un changement de propriété. Et c'est pour ça que quand l'objet il a été détérioré par le voleur, donc il devient propriétaire de l'objet volé et il doit indemniser totalement la personne volée. La Gemara poursuit. Amar Bichia Baraba, Amar Yohanan, Dva Torah. Après la Torah. Xéla, un objet volé, un istanit qui a été transformé, qui a été modifié, Roseret, Benha, il faut la restituer quand même dans l'état, malgré la transformation, chez Neymar, parce que c'est écrit dans la Torah, Vachim et Tagezela, Cher Gazal, il faudra restituer Tagezela, le vol. Et donc, évidemment, Cher Gazal, c'est ce qu'on a volé. Alors, l'expression Cher Gazal, qui est Mouyuteret, qui est en trop, elle va nous dire, que Mikol Makom, quelle que soit la situation, l'état dans lequel se trouve l'objet, Asher Gazal, du moment qu'il a volé, rend-le. Donc, Rabbi Yohanan, il pense qu'une transformation ne crée pas de changement de propriété. Alors, là, il m'a dit, une Thomas, si tu veux dire, alors Mishnah, nous, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yohanan, notre Mishnah? Dans le Mishnah, on voit bien que lorsqu'il y a transformation, Agozel et Tzim, Masan Kelim, Meshalim Keshat Agzela, il faut rendre juste le prix des matériaux au moment du vol. Alors qu'est-ce qu'il en fait de cette Mishnah Rabbi Yochanan? Il m'a répondu, Mishum Takanat Hashavim. Rabbi Yochanan, il pense que, bien que Mina Torah, le voleur, il a l'obligation de restituer l'objet transformé, mais Midrabanan, puisqu'il y a transformation, quand c'est une transformation qui a bonifié l'objet, alors pour l'encourager à faire Tchoua, Midrabanan, il peut le garder. Et juste se contenter d'indemniser les personnes volées. Ragma poursuit, elle dit, Oumi Amar Biochanan, Rabbi Yochanan, il peut dire une chose comme ça. Amar Biochanan, Rabbi Yochanan a dit par ailleurs, Alakha, Kesta Mishnah. C'est-à-dire que chaque fois que Rabbi, le compilateur des Mishnayot, il rapporte une Mishnah sans nom d'auteur, ça signifie qu'il s'est rallié à cet avis, que ça reflète l'opinion de la majorité. Et donc c'est l'Alakha. Outnan. Or, on voit une Mishnah justement, qui est sans nom d'auteur, où on dit il explique l'iteno, si l'éleveur n'a pas réussi à remettre la laine au Kohen, à Tchetsevao, jusqu'à ce qu'il est éteinte, pas tout. Après ça, il est dispensé de la remettre. On voit donc que cette Mishnah pense que la transformation change le statut de la laine. Alors comment Rabbi Yochanan a pu dire plus haut, il va Torah, Gizela, un istanet, même si elle a été transformée, Roseret, ben là, il faut la restituer, il n'y a pas de changement de propriété. Amalou, Ahou, Midrabanan, il y a un Talmid, le Rabbi Yaakov Shemé, dont le nom c'est Rabbi Yaakov, il a dit, le Didi Mefarshali, à moi, il m'a été expliqué, miné de Rabbi Yochanan directement de la bouche de Rabbi Yochanan. Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que l'objet volé transformé, il reste propriété du volé, c'est seulement que Gan Shegataletim, seulement s'il a volé du bois Meshoufin qui était déjà poncé, et à Saan Kelim, il en a fait des objets, il a assemblé les morceaux pour en faire un objet fini, Da'avalé, que c'est un cas de Shinuya Hoser Briato. C'est une modification, une transformation qui peut revenir à son état d'origine. Et c'est sur ça qu'il a dit Veshif et Dagzela Shargazal, que la Torah, elle a incité à Shargazal, rend-le du moment qu'il a été volé, même s'il a été transformé, mais transformé de manière réversible. Et c'est sur ça qu'il avait demandé Veim Tomar Mishnatenu. Si tu me poses la question, qu'est-ce qu'on doit faire notre Mishnah, où on voit qu'un objet assemblé avec du bois volé, il devient propriété du voleur. Ça, nous a-t-il dit, ça n'est que Mishum Takanat Hashavim, ça n'est que Midrabanan, pour encourager les voleurs à faire tshuva. Donc le Pasuk Kasher Gazal, il vient inclure un objet qui est transformé par le voleur de manière réversible, pour lequel la Torah dit qu'il faut le rendre quand même, Mina Torah, au volé, mais Midrabanan, Mishum Takanat Hashavim, le voleur pourra le garder et se contenter d'indemniser le volé. Par contre, un objet qui a été transformé de manière irréversible, là il devient propriété du voleur, Mina Torah, et le voleur pourra se contenter d'indemniser le volé. Et donc, c'est pourquoi ça rejoint l'enseignement de la Mishnah de la laine qu'on a teinte. On avait expliqué précédemment que c'était teint avec une teinture à base de sève d'arbre qui rend la teinture indélébile. C'est pourquoi cette transformation crée un changement de statut et elle dispense l'éleveur de remettre la part de la laine qui revient au Kohen. Et cela, Minatora, bien sûr. La Gemara apporte maintenant une braïta, Tanou Rabanan. Chachamim nous ont enseigné, Agazlanim, les voleurs, ou Malvé Berébit, ceux qui ont prêté de l'argent et qui ont reçu de l'intérêt. Shir Zirou, maintenant, ils veulent faire tshuva, ils veulent restituer l'objet de la Avera. El Mekabelin, Mehen, les bénéficiaires ne doivent pas l'accepter, ils doivent décliner. Et pour les encourager à faire tshuva, Bam Kabel Mehen, celui qui s'avise de l'accepter, Enroi Chachamim, Noha Emenu, les Chachamim désapprouvent cette attitude. Rabbi Yochanan, il a expliqué que Bime, Rabbi, Nishnet, Mishnazo, cet enseignement qui recommande aux victimes du vol ou du prêt à intérêt de faire preuve de compréhension envers le voleur ou celui qui a prêté avec intérêt, Mishnazo, cette Mishnah, elle est valable, elle n'a été instituée que pour la génération de Rabbi. Netanya, ainsi qu'on peut le voir dans une Moraïta, Maseb, Adam, Echad, est arrivé une fois qu'un homme, Shebikesh, Lassot, Teshuva, il a été pris de remords et il voulait réparer les vols qu'il a commis. Amra Ouisto, sa femme lui a dit, Rika, et servez-le. Imata osse tshuva. Si tu veux faire tshuva, afilu avnet enoshelcha. Même la ceinture du porte, elle est plus à toi. Venimna, et à cause de ça, il s'est abstenu, vlasa tshuva. Botashara, à cette époque, Amrou, les chachamim m'ont dit, Agazlanim, les voleurs, Malvé Beribit, ceux qui ont prêté avec intérêt, chez Irzirou, qui veulent restituer l'objet de la Vera, en kabelim mehen, on n'accepte pas. Mais N2. Bien sûr, pour le vol, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte rien. On accepte de se faire indemniser, mais on n'oblige pas le voleur à rendre d'Afka l'objet qu'il nous a pris. Bam Kabel Mehen, celui qui passe outre à cette recommandation, qui accepte la restitution de l'objet volé, En Roi Hachamim Nocha Emenu, les Hachamim ne sont pas satisfaits de son comportement. Métivé. Maintenant, la Gemara va relever une contradiction avec le texte qui suit. Inyah lehem avihem maot shel ribitsi, un père qui est décédé, il a laissé en héritage de l'argent qui provient du prêt avec intérêt. Afalpi shehen yod ein shehen ribit. Même si les enfants savent pertinemment que cet argent-là, il provient de la vera du ribit, en chayavim lachzir, ils n'ont pas l'obligation de la restituer à l'emprunteur. Alors bien que l'argent du ribit les intéresse, c'est du vol. Et Rashi dit que comme c'est pas eux qui l'ont volé et que l'emprunteur il a probablement perdu, il a fait yush sur cet argent, il a perdu l'espace de le retrouver. Donc le yush de l'emprunteur plus le changement de propriété du père aux enfants, ça dispense les enfants de restituer le ribit à l'emprunteur. Alors la Gemara fait la déduction suivante. Elle dit, il semble de ce texte que in who c'est eux, c'est-à-dire les enfants des lots, qui n'ont pas d'obligation de restituer. Ah, donc, avihem, il semble que le père, chayav l'arzir, s'il avait été encore vivant, il aurait dû restituer ce ribit. Alors, qu'est-ce qu'on fait des recommandations des chachamim d'encourager les balei tshuva et de ne pas accepter qu'ils nous restituent l'intérêt? Alors, la Gemara répond, bedin hu, en réalité, on peut comprendre dans le texte qu'on vient de citer que Aviem Nami, que leur père également, il aurait été dispensé, et no chayav l'arzir. Alors Veha de Katani Bididou. Alors pourquoi est-ce qu'on parle seulement des enfants? Réponse Mishum de Kabae le Mitne Sifa, c'est parce que on a voulu enseigner dans la suite de cette braïta que Inyachlaem Aviem, lorsque le père il a laissé aux enfants un héritage para, si c'est une vache qu'il avait reçu en ribite, ou une vache qu'il avait volée, le talit. Le chodavar, monsieur, et d'une manière générale, tous les objets qui sont définis, c'est-à-dire dont on connaît le propriétaire. Dans ce cas-là, les enfants, chayabin, l'harzir, ils ont le devoir, par respect pour leur permis, et qu'il voit de le restituer. Pourquoi? Parce que, comme on connaît le propriétaire, on connaît la raison, la faute qui est rattachée à cette vache ou à ce talit, alors le conserver, c'est conserver le souvenir de la vera du père. Et c'est donc parce que le deuxième volet de la vera ne concerne que les enfants que Tana Risha, que dans le premier volet de la vera aussi, Nami Bedidhu, c'est deux des enfants qu'on a parlé, bien que la dispense de restituer le ribit concerne également le père pour faciliter sa teshuva. Maintenant, la Gemara voudrait éclaircir un point qui la chiffonne. Elle dit, Mipne que vod avihem chayavim l'arzir. Comment est-ce qu'on dit dans la Braïta que par respect pour le père, ils doivent restituer l'objet défini, puisque la vache et le talit sont devenus leur propriété après la mort du père? Pourquoi est-ce qu'ils devraient dépenser leur denier pour préserver le respect d'un père qui est rachat? On devrait ici adopter la même attitude qu'on adopte concernant l'interdiction de maudire le prochain, que cette interdiction n'est valable que si le prochain il vit dans le cadre de la Torah, mais s'il est hors le judaïsme, il ne pratique pas. On n'a plus d'interdiction de le maudire. Donc, Ikrekan, on aurait dû aussi appliquer ici l'enseignement qu'on a vu dans l'interdiction de maudire, Venasib Ammecha de Tahor. Qui est-ce qu'on a le droit de maudire? Celui qui est Ba'amecha, Borosé, Ma'asé, Amecha, celui qui se conduit comme on se conduit dans ton peuple. Alors la Gemara répond, Kedama Finchas, comme Rav Finchas a répondu dans un autre contexte, dans la Gemara Chagiga, Mesha Satchouva, que on parlait là-bas de quelqu'un qui a fait Tchouva, Achanami, ici aussi on pourra reprendre à notre compte cette réponse et dire, Mesha Asa Tchouva, que le père, avant de mourir, il avait fait tshuva, et c'est pourquoi les enfants, ils sont obligés de tenir compte du respect de la voix de leur père. Alors là, il m'a demandé, mais Mbeche a sa tshuva, s'il a fait tshuva pour faire vraiment tshuva, il faut avoir restitué cet argent, il a sa tshuva. Alors Maïba et Gabé, qu'est-ce que l'argent du ribit ou la vache et le taïd, qu'est-ce qu'ils font chez lui? Iba, elle est là, adorée. Pour faire une tshuva complète, il faut le rendre. Alors la Gemara répond, Shlo Ispik l'Arzir, il n'a pas eu le temps de restituer vraiment, il voulait rendre la chose, seulement il n'a pas eu le temps à Tchemet, puisque la mort l'a surpris. Et donc, malgré qu'on puisse estimé que cette chouva n'a pas été complète, puisqu'il n'a pas vraiment corrigé tout son acte. Malgré tout, les enfants, ils ont l'obligation maintenant d'honorer la mémoire de leur père. Maintenant, la Gemara amène un autre texte qui pose problème. Tashma. Bien, écoute cet enseignement. On nous dit, dans une maréta, Gazanim, Mazéberibi, les voleurs et ceux qui ont prêté avec intérêt, Afapi, Shigabou, même s'ils ont déjà perçu, Maradirin, ils doivent restituer. Alors, la Gemara commence par demander, on parle dans cette maréta que Shigabou, ils ont perçu. Encore, pour ceux qui ont prêté avec intérêt, on peut concevoir chez Gabou, ils ont perçu. Ils ont perçu le ribit. Mais les gazlanim dont on parle, mal chez Gabouika, de quoi il peut s'agir qu'ils aient perçu? Igazoul, gazoul, s'ils ont volé, c'est déjà perçu. Vilo, gazoul, lo, gazoul. Et s'ils n'ont pas encore volé, alors ils ne sont pas des voleurs. Et là, hein, Ima, donc il faut comprendre la baraita comme ça. À gazlanim, les voleurs, ou Magniou, et de quel voleur s'agit-il? Malvé Beribit, ceux qui prêtent avec intérêt. Afalpi Shigabou, même s'ils ont déjà perçu l'intérêt, Mahazerin, ils doivent le restituer. C'est donc ça le sens de cette barita, mais il nous reste à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut le restituer, puisqu'il existe cette recommandation des Rachamim du temps de Rabbi, qu'on doit décliner l'offre des gens qui font teshuva, et on doit leur refuser. Amré, alors l'Agma répond, Mahavirin, quand on parle de restituer, ça veut dire Mahavirin veut en metabimène. Eux, ils doivent faire le geste de le restituer, mais nous, on doit le refuser. Alors l'Agma dit, mais et là, la Mahavirin, si on le refuse, alors pourquoi est-ce qu'ils doivent faire le geste de le restituer? L'Agma répond, la tzatil des Shamaï, c'est pour que leur réparation soit le plus complète possible, parce que en remettant l'argent volé ou l'argent du ribit à la disposition de la victime, c'est comme s'ils lui rendent. Donc ils ont réparé leur faute. Et la victime, en refusant cette avance, cette proposition de la part du Baal Tshuva, en fait, la victime ne fait que donner, faire don de l'argent du ribit ou de l'objet volé à son ancien agresseur. Tashma, viens écouter un nouveau texte qui pose problème. Haroim, la Braïta dit, les bergers qui conduisent les troupeaux de différents propriétaires et qui ont du mal à s'empêcher de se servir par ces pas-là de la laine ou du lait des brebis qui ne leur appartiennent pas. Vagabain, les collecteurs d'impôts du roi, qui souvent font aussi des excès, ils sont amenés à prendre des fois de l'argent indu, pas morcine, et les préposés au péage, qui aussi, des fois, prennent des commissions illégitimes. Tshuvatan kasha, leur teshuva est difficile à engager. Pourquoi? Parce que ils ont lésé tellement de personnes au cours de leur vie que c'est pratiquement impossible de retrouver tous les gens à qui ils ont nui. Omar Hazirin, la Makirin, quand même, tout ce qui est à leur portée, ils doivent le faire, et donc les personnes qu'ils arrivent à retrouver, qu'ils ont lésées, doivent les indemniser. Donc là aussi, on voit que la Braïta dit qu'il faut restituer ce qu'on a volé. Alors qu'en est-il de la facilité qu'on doit faire à ceux qui veulent faire teshuva? Alors la Gemara répond, Amré Mahazirin. Eux, ils doivent faire le geste de restituer. Mais nous, on ne l'acceptera pas. Alors, l'Agma demande aussi, Vela, Lama Marzerin. Alors, quelle est l'utilité de le restituer puisqu'on ne l'accepte pas? Réponse, comme avant, la Tzatzit des Shamaim. L'Agma dit, mais si c'est comme ça, que de toute façon, ils sont dispensés, alors pourquoi on dit, Amay Tshuvatan Kasha, pourquoi on a dit que leur Tshuva est difficile? C'est facile de faire semblant, de restituer. Ve'od. Imasifa, plus encore, lisons la suite de cette baraita de Sheen, Makirin. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux envers qui ne peuvent pas réparer leur faute, la baraita recommande Yahasé Bahen, avec tout l'argent qu'ils estiment avoir volé, détourné, Yahasé Bahen sur Ketibour. Il devra faire avec, des biens d'utilité publique. L'Amar Afrasdar, il a dit, par exemple, Borot, il peut faire des réserves d'eau, en Shichin ou Marot.
Ce sont des formes différentes de réceptacles d'eau. Et on voit donc de cette Beraïta qu'elle tient absolument à ce que le pêcheur, il répare d'une manière très concrète en payant de sa poche pour réparer les différentes exactions qu'il a commises. Et là, alors qu'est-ce qu'il faut dire pour harmoniser cette Braïta avec la règle de Rabbi? L'Okasha, il faut dire comme ça, c'est pas difficile. Kal Kodem Takana. La Braïta qui nous demande de réparer de manière concrète, elle parle avant la Takana de Rabbi, et Kal Achar Takana. Et donc, après la Takana, on doit faciliter la Teshuvah de ceux qui veulent se repentir. La Gemara ajoute maintenant une autre réponse possible. Elle dit, Hashta d'Amar Rav Nachman, maintenant que nous avons entendu une réflexion de Rav Nachman qui a dit, Beshe'en Gizala Kaimed. Quand est-ce que Rabbi il a dit qu'il faut refuser de se faire indemniser par le voleur? Beshe'en Gizala Kaimed, c'est seulement dans le cas où l'objet du vol il n'est plus dans les mains du voleur. Et si l'objet il est encore indemne dans les mains du voleur, alors c'est sûr que la victime a le droit d'accepter de la part du voleur qu'il le lui rende. Alors maintenant on peut dire « Afilou tema ilivedi » même si on dit que les unes et les autres, toutes les braïtotes qu'on a vues, la Har Takana, elles sont contemporaines de la Takana de Rabbi, l'Okasha, c'est pas difficile. Passons maintenant.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.